sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Bonsoir à chacun. Alors, donc, j'en profite pour terminer la série sur Élie. Vous savez qu'on a fait... Oui, vous êtes contents, surtout parce que c'est la dernière, j'ai compris. Ouais, d'accord. Non, mais ça me fait plaisir, ça m'encourage beaucoup, c'est gentil. Et donc, comme c'est une série météorologique, vous avez vu que les signes tout à l'heure étaient déjà là. On avait fait la première fois Élie... prophète de la sécheresse, la deuxième le prophète de la pluie, la troisième fois prophète dans le brouillard, la quatrième fois c'était le prophète de la foudre, hein, et aujourd'hui c'est tout simplement Élie dans le ciel. Alors, moi ce qui m'a souvent fait réfléchir, c'est que je me suis dit, il y avait quand même dans l'ancienne alliance, Des gaillards de prophètes qui étaient quand même des gens, je ne sais pas comment dire, qui étaient une pointure quand même, hein. Parce que quand vous voyez des messieurs comme Élie, qui de temps en temps était transporté par l'Esprit de Dieu, Dieu le prenait pour le poser ailleurs, quand vous voyez le feu qui tombe du ciel sur le sacrifice, comme on avait vu l'autre fois, quand on voit des gens comme Moïse, tout d'un coup, au pied du Sinaï, le Sinaï tout entier se met à trembler, à fumer, la trompette retentit dans le ciel, au point que tout le peuple avait les chocottes. Quand on voit toutes sortes de Josué devant Jéricho et la muraille qui s'écroule, bon, on dit, des fois je me suis dit, mais au fond, des phénomènes comme ça, il y en avait plus et de plus grande ampleur que ce que nous vivons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Non, vous n'êtes jamais posé des questions comme ça? Bon, je suis tout seul, ça fait rien. Et alors, et comme c'est des questions qui me pèsent, il n'y a pas de raison qu'elles me pèsent qu'à moi, donc je vous fais partager. Mais finalement, la différence, hein, c'est que il y avait des signes, ce genre de signes était peut-être plus percutant, plus fracassant, c'est vrai, mais aujourd'hui en Christ, hein, nous avons beaucoup plus. Aujourd'hui en Christ, nous avons beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, au lieu que, comme dans l'ancienne alliance, la puissance de Dieu n'était répandue que sur quelques rares éléments, et encore, il n'y en avait pas un dans chaque génération, hein. Il y en avait un de temps en temps, mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu dans tous les croyants. Et c'est bien autre chose. Et notre perspective à nous est tellement différente, hein. Aujourd'hui, notre perspective en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, hein, c'est d'aller directement au ciel. Quand l'apôtre Paul parlait de son avenir éternel, il dit « Je suis pressé de mourir et d'être avec le Seigneur ». Et ce n'était pas le cas dans l'ancienne alliance, parce que le chemin n'était pas encore ouvert. Donc, même si aujourd'hui, nous ne sommes plus les spectateurs de phénomènes fracassants comme le feu qui tombe du ciel, les montagnes qui tremblent, etc. Mais de loin, nous n'avons rien perdu. De loin, aujourd'hui, de vivre avec Jésus, c'est quelque chose de... C'est tellement extraordinaire. C'est tellement grand. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons finir avec l'histoire d'Élie, et on va d'abord lire, on va faire comme d'habitude, comme ça nous changera. On va lire dans 2 Rois 2, 2 rois 2. Et on va d'abord lire tout le passage, comme ça vous savez de quoi on parle. Je vais de toute façon pas vous surprendre, je pense que la plupart vous connaissez déjà l'histoire. Je me souviens que j'ai regardé dans mes petites fiches et j'ai vu que j'avais déjà prêché ce thème-là il y a 4 ans. Donc pour ceux qui étaient déjà là, ça sera une révision et puis de toute façon vous connaissez ça. Mais en plus, notre défi face à la Bible, c'est pas toujours de découvrir des choses innovantes. Hein. On n'a pas besoin de découvrir des choses innovantes. Ce dont on a besoin, c'est de se laisser constamment de remplir, imprégner, mettre sous l'onction des choses que peut-être nous connaissons déjà. Parce que sinon, si vous cherchez toujours des choses qui doivent être originales, innovantes, alors dans quelques temps, vous allez vite être lassé de la Bible. Ceux qui l'ont lu, ceux qui ont déjà lu la Bible 20 fois, 30 fois, 40 fois, ben, ils ne la lisent plus pour découvrir quelque chose de nouveau. Mais on continue de lire la Bible pour être en contact avec le Dieu qui est dedans. Pas forcément pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc, je ne dis pas ça seulement pour m'excuser de reprendre un thème que j'avais déjà traité, mais c'est parce que c'est normal, c'est une bonne chose hein, de répéter les mêmes choses. Voilà, donc 2 rois 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alors, Élie dit à Élisée, écoute, reste ici, je t'en prie, parce que l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée répondit, alors là, rien à faire. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Donc, ils descendirent ensemble à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi, de ta tête? Et il répondit, oui, je le sais, taisez-vous. Alors, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, l'Éternel m'envoie jusqu'à Jéricho. Mais il répondit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Donc, ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, oui, je sais, taisez-vous. Alors Élie lui dit, reste ici, je t'en prie, parce que l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Il répondit, vous savez déjà, hein, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alors ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils traversèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, là tu demandes quelque chose de difficile, hein? Écoute, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, alors ça t'arrivera. Sinon, ça n'arrivera pas. Et comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et il criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Moi, je ne le fais pas. Hein. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, alors, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alors, ce texte est un texte vraiment, moi ça fait partie, j'en ai comme ça une petite collection, que j'aurais aimé vraiment voir. Et j'ai toujours dit que quand j'arrive au ciel, je vais, le plus vite possible, je vais à la cassettothèque et je veux regarder celui-là. Parce que, non mais tout est enregistré, donc on va pouvoir retrouver hein, tout. Donc ça je veux absolument le voir, parce que c'est quand même trop, c'est trop grand, c'est trop extraordinaire. Vous imaginez, vous êtes en train de parler... Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et voilà que tout d'un coup, on se croirait dans un film fantastique, un fantasia, je sais pas quoi, hein, où tout d'un coup, un char de feu tiré par des chevaux de feu, déjà c'est pas facile de se représenter la chose, hein, et votre petit camarade qui est à côté, tout d'un coup, hop, comme ça, il passe à côté, ça le prend, c'est comme si, hop, directement, il monte sur la chose, et brrr, le voilà parti, comme ça, et l'affaire, le cortège monte dans les airs, comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin, Élisée le voyait plus du tout. Quand on lit des choses comme ça, ben, si on ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, eh ben, ouais, il y a des gens qui sourient, quoi. Hein. Et oui, ouais, c'est une jolie histoire, ouais. Ouais, j'ai lu aussi Cendrillon, c'était bien. Mais, non, mais moi je comprends hein, qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont incrédules, hein, c'est une maladie dont on guérit de toute façon. Mais je comprends que pour beaucoup de personnes, ces choses sont difficiles. Mais écoutez, si, à partir du moment où cette création même existe, la création elle-même est quelque chose d'improbable. Les scientifiques eux-mêmes disent que l'existence même de la création est quelque chose de totalement improbable. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Si Dieu a été capable de créer la matière, de l'organiser, de fabriquer avec des organismes vivants, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas aussi, dans son ciel de gloire, avec lui, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas aussi des chevaux de feu tirant des chars de feu, après tout, finalement? Par rapport au cosmos qui nous entoure, ça reste quand même un détail, hein, hein. Bon, pour nous, fabriquer un char de feu, évidemment, c'est difficile. Mais Dieu est Dieu. Je vois pas pourquoi on s'étonnerait de quelque chose que Dieu fait, puisque Dieu est capable non seulement de fabriquer des choses matérielles, mais Dieu fabrique des choses non matérielles. Tout le monde croit à l'amour, mais l'amour a été fabriqué par quoi? Par de la chimie, des trucs qui se sont rencontrés? Non, ça c'est la création même de Dieu. Donc, puisque toutes ces choses existent, moi ça m'étonne pas du tout qu'il puisse exister des chars de feu et des tirés par des chevaux de feu. C'est pas du tout un problème. Donc on reprend verset 1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alors rien qu'avec la forme de la phrase, on voit que l'auteur sait qu'il raconte une histoire qui est déjà connue de ses lecteurs. Parce qu'il raconte la fin, il donne déjà la fin avant le début. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Donc voilà, ça c'est déjà la fin de l'histoire. Donc c'est parce qu'il sait que c'est une histoire glorieuse, une histoire connue, une histoire que tout le monde se raconte en Israël. C'est une histoire bien connue. Verset 2, il dit, alors c'est un truc qui nous épate quand on lit le texte, c'est que vous avez vu que Élie, qui est avec son... Alors, peut-être quelqu'un ne connaisse pas très bien Élie et Élisée. Élie, c'est le prophète qui était avant Élisée. Élisée, ça sera la génération suivante. C'est celui qui va lui succéder. Il est plus jeune. Et voilà, pendant un temps, Élisée a été son... son aide, son adjoint, voilà. Et donc, Élie, maintenant, sait, on a vu dans l'histoire que pour Élie, il n'y avait pas du tout de mystère, il savait très bien que c'était le jour de son départ, mais on voit que dans cette histoire, finalement, tout le monde savait, quoi. Hein, Élisée le savait aussi, et tous les prophètes le savaient aussi, donc c'était un fait pourtant ultra surnaturel, tout le monde était au courant. Et alors ce qui nous épate un peu, ce qui questionne, c'est que Élie semble vouloir se débarrasser d'Élisée. Hein, trois fois, il lui dit, écoute, et puis on a l'impression que c'est, je dirais presque que c'est des prétextes, quoi. Hein. Il dit, écoute, je dois faire une course là-bas, mais c'est pas à peine que tu viennes, je vais y aller tout seul. Alors comme Élisée dit, si j'y vais, bon, ok, j'y vais ensemble. Quand ils arrivent là-bas, il dit, finalement, je dois aller un peu plus loin. Mais reste là, c'est pas la peine. Trois fois de suite comme ça. Moi, si quelqu'un me fait le coup trois fois, je dis, bon, écoute, si je te gêne, tu me le dis. Tu vois, non, mais c'est-à-dire, pour être juste... Non, comme ça, on est clair, quoi. Hein? Je sais pas, je sens mauvais ou... Tu vois? Alors, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il semble toujours vouloir se débarrasser de lui? Et on voit, à contrario, on voit que Élisée, lui, a bien vu le coup venir, et lui, il a décidé que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne le lâchera pas. La formule, c'est une formule culturelle, très habituelle en hébreu, qui nous surprend un peu. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Aujourd'hui, j'entends pas beaucoup dans les conversations les gens parler comme ça. Mais ça veut simplement dire qu'on prend Dieu à témoin que aussi vrai que Dieu est vivant, voilà ce que je vais faire. C'est une façon de dire que absolument on ne changera rien à ce qu'on a dit. Et Élisée montre qu'il ne changera pas sa décision est prise, rien ne l'en détournera. Alors, cette question de pourquoi Élie voulait se débarrasser d'Élisée est souvent réfléchie comme ça. Et finalement, une raison qui est souvent suggérée, c'est que certains m'ont dit souvent, mais peut-être que Élie voulait en quelque sorte tester Élisée. C'est comme si c'était un petit peu, il le teste, il le provoque, il essaye de le pousser dans ses retranchements pour voir s'il va tenir, s'il va persévérer, etc. Alors, franchement, ça me convainc pas parce que je trouve que c'est pas un truc à faire. Hein, que Dieu veuille nous tester, etc. Ok. Mais c'est pas à nous de décider de nous tester les uns les autres, voyez. Hein? Vous avez envie de tester votre voisin? Non? Ben non, ne le faites pas, hein. Non, moi je trouve qu'on est plutôt fait pour s'encourager. On est plutôt fait pour se donner un soutien, un appui, mais on n'est pas là pour se suggérer les uns les autres de faire des bêtises pour dire après à l'autre, t'as pas tenu le coup. Non, ça se fait pas. Non, c'est pas spirituel du tout, hein. Mais par contre, comme on a vu l'histoire, vous avez vu l'histoire jusqu'au bout, et dans cette histoire, on comprend bien que quand Élie est parti, enlevé par Dieu dans le ciel, on comprend bien que, puis la suite le montrerait, vous lirez la suite après, que ce départ d'Élie dans le ciel était un départ définitif. C'était pas juste comme ça pour une fois, comme si Dieu l'avait changé de région pour le transporter plus vite. Non, c'est un départ définitif. Alors vous savez, en français, on a un mot spécial pour désigner ce genre de départ définitif. Je ne sais pas si vous voyez quel mot je veux dire. Si, quand quelqu'un doit quitter comme ça définitivement, hein? Ben c'est la mort. C'est la mort. Quand quelqu'un vous quitte pour le ciel et que c'est définitif, c'est difficile d'appeler ça autrement que la mort. Est-ce que c'est rigolo d'assister à la mort de quelqu'un? Ben non, hein. Même si c'est un croyant, même si c'est un chrétien, même si on sait que son départ est un départ vers Dieu, même quand on enterre quelqu'un qui était vraiment quelqu'un dont on est sûr qu'il marchait avec Dieu de tout son cœur, mais quand il meurt, ben on est triste. On sait bien qu'on va le retrouver. C'est pas une tristesse, hein, comme Paul dit dans Aux Thessaloniciens, c'est pas une tristesse de désespoir. Nous ne nous désespérons pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Pour les incroyants, quelqu'un qui meurt, c'est non seulement c'est définitif au point de vue biologique, mais c'est définitif totalement, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Tandis que nous ne sommes pas désespérés, parce que nous sommes toujours dans l'espérance chrétienne. Mais n'empêche que c'est normal d'être triste. Et vous voyez, et c'est comme ça que je comprends l'attitude d'Élie. Parce que Élie et Élisée fonctionnaient ensemble servaient Dieu ensemble depuis déjà longtemps. Et ils étaient tous les deux vraiment une paire d'amis. Pas simplement des collaborateurs, pas simplement des co-ouvriers, pas simplement l'un qui aurait été un peu le subalterne de l'autre. Non, ce sont vraiment des amis. Et Élie savait qu'il allait aujourd'hui, entre guillemets, mourir. Même si c'est une mort glorieuse, même s'il meurt en partant sur un char de feu tiré par des chevaux de feu, mais n'empêche que c'est quand même le jour où il quitte cette terre. Et donc lui, ça lui faisait de la peine, il avait de la compassion pour le chagrin à venir de son ami. Donc il se disait, il va être triste, hein. Il va être triste, ça va être difficile pour lui, autant qu'on ne soit pas ensemble quand ça doit se produire. Et c'est pas une sorte de compassion, de sensibilité d'un ami pour un ami que Élie semblait vouloir mettre Élisée à part. Mais même si Élisée avait bien compris que c'était un jour triste, hein, pour autant, il ne s'est pas laissé submerger par la tristesse et lui, il ne voulait pas louper la bénédiction de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il a dit « Non, rien à faire, moi je te tiens. » Il lui a attrapé son manteau, il a dit « Je te lâche pas, hein, jusque, voilà. » Et c'est pour ça qu'ils se sont, d'étape en étape, de Gilgal à Bethel, de Bethel au Jourdain, de Jourdain jusque de l'autre côté, ils sont restés comme ça, ensemble. Ça va, vous m'avez suivi? Très bien, bravo, c'est bien. Verset 3, voilà, donc les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Donc on voit que quand on dit les fils des prophètes, c'est des vrais prophètes. C'est même fils d'eux, c'est un superlatif quelque part. C'est une façon de dire que c'est des gens qui sont vraiment dedans. Hein, comme Barnabas qui était le fils de l'exhortation, ça veut dire qu'il était réellement un très bon exhortateur. C'est les fils des prophètes. Ce sont des gens qui reçoivent vraiment la parole de Dieu. Et vous voyez, rien que dans ce texte, rien que dans cette page, on voit combien l'esprit de prophétie dans cette génération-là était répandu. C'est extraordinaire. C'est pas juste Élie et Élisée, mais on voit trois groupes de prophètes et des prophètes qui reçoivent vraiment des informations surnaturelles. Un groupe à Bethel, un groupe à Jéricho, et après, il y en a encore 50 qui arrivent de l'autre côté. Et tous ces gens-là avaient reçu une information, écoutez, qu'ils n'avaient pas pu trouver sur le net. Hein. Parce que pour imaginer comme ça, intuitivement, que quelqu'un va aujourd'hui même partir dans le ciel directos, ça c'est quand même improbable, hein? Eh bien, ils avaient tous cette information. Et moi, je trouve que c'est un défi, des passages comme ça nous jettent à l'Église de Christ aujourd'hui un véritable défi. Un défi pour soupirer devant Dieu et réclamer à Dieu une génération, une nouvelle génération prophétique. une génération prophétique. Pas juste, pas seulement quelques-uns, mais une génération tout entière dans laquelle il y aura une multitude de gens. Et du reste, c'est ce que Acte 2 annonçait. Hein, des prophètes, des prophéties, des révélations, des songes, les dons spirituels, toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et voyez, ils ont dit, la réponse d'Élisée est la réponse de quelqu'un qui est déjà triste. Il leur dit, écoutez, je le sais aussi. Taisez-vous. C'est-à-dire, ne m'en parlez pas. Quand quelqu'un nous... Ça, c'est la réponse qu'on fait. Quand quelqu'un nous parle de quelque chose qui est douloureux et dont on ne veut pas parler, on dit, ne m'en parle pas. Parce que Élisée est triste. Du reste, rappelez-vous que quand Élie, effectivement, partira dans le ciel, quelle est la première réaction d'Élisée ? Sa réaction, c'est la réaction de la tristesse. Il a pris ses vêtements, il les a déchirés, comme on faisait dans la culture de l'époque, pour montrer qu'on est dans le chagrin, dans le deuil, etc. Et nous, voyez, souvent, quand on lit cette scène, on voit que le côté glorieux. Mais on oublie le côté humain. Même les gens qui vivent des choses glorieuses restent des hommes que Dieu utilise pour des choses glorieuses. Mais dans Élie, il y a un monsieur. Dans Élisée, il y a un type. Avec des sentiments, avec des émotions. Les gens qui travaillent pour le Seigneur, même ceux qui travaillent avec puissance, ne sont pas déshumanisés. Le ministère ne fait pas d'eux des personnages uniquement spirituels. Ça ne fait pas d'eux des gens sans émotions, sans chair. Et Élisée dit non, ne me parlez pas de ça. Et puis il voulait pas être distrait, il voulait pas sortir de son objectif. Donc la scène se répète, on a vu qu'elle se répète plusieurs fois, et jusqu'à ce qu'on arrive au verset 7. Et au verset 7, donc 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient. Je me dis, encore là, 50 personnes pénétrer de ce que l'Esprit de Dieu leur a révélé. C'est vraiment extraordinaire. Verset 8. Alors, là, on retrouve le Élie qu'on connaît, le prophète de la puissance, avec son manteau, et c'est ce manteau fantastique. Vous savez que vous vous rappelez d'où, dans quel épisode on avait parlé de ce manteau la première fois. C'est la première fois quand Élie est sorti de la caverne et puis que Dieu est passé devant lui. Alors Élie est sorti de la caverne et par respect de Dieu, par crainte de Dieu, il s'est enveloppé le visage de son manteau. Et c'est ce manteau pétri de la crainte de l'Éternel qui devient le manteau de la puissance. La puissance de Dieu exercée sans la crainte de Dieu, C'est une catastrophe. La puissance de Dieu qui serait exercée sans une véritable soumission totale de cœur à Dieu serait quelque chose d'extrêmement destructif. Parce que plus on utilise une arme puissante, plus il faut de formation. C'est pas difficile d'utiliser l'instruction pour utiliser un lance-pierre, c'est assez vite expliqué. Pour utiliser une carabine, il faut expliquer un peu plus longtemps. Pour utiliser une mitrailleuse, il faut vraiment faire un stage. Pour utiliser une bombe atomique, bon, normalement, il ne faut pas. Mais plus une arme est puissante, plus elle est dangereuse, plus elle est périlleuse, y compris pour ceux qui l'exercent et pour ceux qui sont autour. La puissance de Dieu est la puissance totale. Et Élie l'a utilisée à bon escient parce que lui, il était constamment dans la soumission à l'Éternel. Son manteau, c'est d'abord le manteau de la crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et quand quelques-uns réclament de la puissance, attention, vous réclamez de la puissance, c'est bien. Mais avant de réclamer la puissance, il faut réclamer la présence. Vous m'avez suivi ? Avant de réclamer la puissance, il faut réclamer la présence. Parce que, bien sûr, c'est plus la puissance, c'est gratifiant. La puissance, c'est visible. La puissance de l'usage de la puissance, il revient quelque chose à celui qui l'utilise. Mais c'est charnel. Et avant d'utiliser, de rechercher la puissance, il faut rechercher la présence. Et c'est ce que Élie a fait, et c'est pour ça qu'il reste, il reste un modèle extraordinaire. Et ayant roulé son manteau, il a frappé les eaux du Jourdain qui se sont séparées, et il est passé avec Élisée, il est passé à pied sec. Ça, c'est quand même aussi quelque chose, hein? Ça, c'est quelque chose. Moïse avait fait la même chose avec la mer Rouge, et Jéricho avait fait la même chose avec le même Jourdain. Et quelque part, chaque génération a son Jourdain. Quelque part, chaque génération, chaque époque est face à la nécessité de recevoir l'approbation de Dieu. Élie a eu son Jourdain séparé, et tout de suite après, Élisée va faire aussi la même chose. Parce qu'il est, il sera le représentant, le descendant d'Élie. Donc, nous ne pouvons pas juste nous arrêter sur nos pères ont traversé la mer Rouge. Oui, mais ils ont traversé la leur. Mais nous aurons la nôtre à traverser. Nous aurons nos propres défis. Et nous ne pourrons pas juste nous arrêter sur le fait que les générations d'avant les ont vécues, mais Dieu veut nous les faire vivre à nous aussi, nos propres défis spirituels. Donc, verset 9, nous voyons que lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, maintenant il met carte sur table, quoi, hein. Il sait que Élisée sait, donc voilà, il parle franco. Il lui dit, écoute, tu sais que je vais partir? Ok, alors, est-ce que je peux faire encore quelque chose pour toi? Demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que je sois enlevé? Alors, Élisée a dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que Élisée n'a pas voulu le lâcher. Parce qu'il sait qu'il va y avoir une bénédiction. Donc, il l'attend. Et là, tout de suite, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas dit autre chose. Il est parti sur ce qui est spirituel. Maintenant, il faut qu'on discute peut-être sur qu'est-ce que ça veut dire une double portion de ton esprit. Alors, je sais que on a souvent évoqué la possibilité que ça voudrait dire que Élisée réclamait d'avoir une puissance, en quelque sorte, deux fois plus grande qu'Élie. Une capacité de faire des miracles deux fois plus grande. Moi, honnêtement, ça, je ne crois pas ça. Et je ne crois pas que ça aurait été, je ne crois pas qu'en plus ça aurait été une bonne demande. Je ne pense pas que ça aurait été une bonne demande. Que quelqu'un puisse réclamer, en se comparant à quelqu'un d'autre, d'être deux fois plus grand, deux fois meilleur que lui, ça me paraîtrait même une demande un peu bizarre. J'aurais pas l'impression d'une demande bien sanctifiée en quelque sorte. Mais je pense pas que ce soit ça que réclamait Élisée. Et Élisée a fait allusion à quelque chose qui existe à la fois dans la loi de Moïse et qui existe dans la culture juive. Dans la culture juive, quand on parle de la double portion, c'est quelque chose de très précis. La double portion, c'est la portion du fils aîné. Quand un homme, et on le voit ça aussi dans la loi de Moïse, c'est écrit noir sur blanc, quand un homme avait plusieurs fils, alors le fils aîné a une portion double. Par exemple, si un monsieur a trois fils, eh bien son héritage est divisé en quatre parts. Et l'aîné a deux parts. S'il a cinq fils, alors son héritage est partagé en six parts. Mais l'aîné a deux parts. C'est la portion du fils aîné. Le fils aîné a la double portion. C'est un droit. Vous retrouvez ça, par exemple, dans Deutéronome 21, 17. Alors, c'est à propos d'un problème. Lié à la polygamie, mais vous allez comprendre que ça revient bien à ce que je vous disais. Deutéronome 21, 17, c'est à propos de, c'est le cas, Moïse évoque le cas de quelqu'un qui aurait deux femmes, et puis il y en a une qui préfère à l'autre, comme dans la polygamie, ça arrive toujours. Et alors il dit, mais cet homme reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Si c'est lui qui est le premier-né, c'est lui qui est le premier-né. Même si c'est le fils de la femme qu'il n'aimait pas, on ne va pas le déposséder de sa part. Et il lui donnera sur son bien la portion double. Ok, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. La portion double, c'est le droit d'aînesse. Ok. Et on a aussi, vous avez aussi ça dans 1 Chronique 5, 2. Et là, c'est à propos, voilà, 1 Chronique 5, 2. C'est à propos de Joseph, vous savez, Joseph qui était... le fils de Jacob, c'est ce fameux Joseph qui avait sauvé ses frères de la famine lorsqu'il avait été vendu comme esclave en Égypte et puis qui les a sauvés finalement. Et on voit au verset 2, « Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. » Donc Joseph a eu le droit d'aînesse et en quoi consistait ce droit d'aînesse? Dans le fait qu'il a eu une portion double. Joseph a eu en territoire deux portions au lieu d'une qu'avaient tous ses frères. C'est-à-dire que ses deux fils ont eu chacun, Éphraïm et Manassé, ont eu chacun une part, comme s'ils étaient une tribu, alors qu'ils étaient chacun une demi-tribu. C'est un passage qui montre que la réalité du droit d'aînesse, c'est la portion double. Alors quand Élisée a réclamé la double portion. Il n'est pas en train de dire « je veux être deux fois plus grand que toi ». Il n'est pas en train de dire « je veux être deux fois plus miraculeux, deux fois plus fort, deux fois plus je ne sais pas quoi ». Il est en train de dire « je suis ton successeur dans la lignée prophétique ». Ok ? C'est comme Jacob qui voulait le droit d'aînesse. C'est comme Abraham, Isaac, Jacob, voilà. Et donc Élisée dit je crois que je suis celui qui est la lignée prophétique. Alors, c'est pour ça que Élie lui dit ça c'est quelque chose que moi je peux pas, ça dépend pas de moi. Parce que ça c'est quelque chose que Dieu décide. La plupart du temps, le droit d'aînesse, chaque fois qu'il en est question, est justement allé à celui que Dieu a rétabli par rapport aux autres. Donc, Élie dit, moi je ne peux pas décider ça, mais il a été inspiré prophétiquement pour lui donner un signe. Il dit, je vais te donner un signe. Le signe, c'est que quand je vais être enlevé, tu regarderas bien. Si tu me vois partir, quand je suis enlevé, alors ça sera le signe que Dieu agrée ta demande et que effectivement c'est toi qui seras mon successeur prophétique. Mais si tu me vois pas, si tout d'un coup je disparais, il est plus là, hein, comme dans les trucages à la télé. Mais si tu me vois plus, alors c'est que ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que quand Élie était en train de partir, hein, alors Élisée regardait attentivement et il voulait pas le quitter des yeux. Et il a vu le char de feu, les chariots de feu, il a vu partir. Donc il savait que maintenant, il avait reçu ce qu'il avait demandé. Verset 11, donc un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon, c'est de là que vient le mot hélicoptère, tout ça. Non, c'est pas de là, je crois. Et verset 12, ouais, non, c'est bon, ok. Verset 12, Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël !» Et sa cavalerie ne veut plus, et saisissant alors ses vêtements, il les déchire en deux. Vous voyez bien qu'il réagit. D'abord, sa première réaction, il réagit comme quelqu'un qui est en deuil, comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui est dans la douleur. Mais ensuite, on a vu qu'il avait lui-même ramassé le manteau. Alors ça, c'est intéressant de voir que Élie est monté dans le ciel, et que montant dans le ciel, eh bien, il n'a pas emmené son manteau. Il n'a pas emmené son manteau. Et vous savez ce que je crois, c'est que moi, dans cette histoire-là, c'est ça qui est la chose qui nous concerne le plus. C'est l'élément fondamental de cette histoire. Cette histoire nous est racontée pour ça. Cette histoire nous est racontée pour nous dire qu'en montant au ciel, Élie a laissé tomber son manteau. C'est la seule raison pour laquelle, enfin la seule, c'est la raison principale pour laquelle Dieu nous raconte cette histoire dans la Bible. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui avait un manteau? Un manteau puissant. Un manteau puissant. On va aller dans Luc, Luc 4. Hein. Luc 4, 1. Luc 4, 1, ça c'est l'histoire de Jésus. Juste quand il a remporté la victoire sur le diable dans le désert, hein. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du désert et fut conduit par le Saint-Esprit, ça a été très vite, où il, voilà, il fut tenté, etc. Il ne mangea rien durant ses jours, etc. Et finalement, on voit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit rempli ? Quand on remplit quelque chose ? Ben, ça veut dire que c'est l'intérieur qui est tout plein. Ok ? Mais regardez au verset 14, après que Jésus ait remporté la victoire sur le diable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit, etc. Alors là, c'est plus la même chose. Au verset 1, il était rempli, c'est dedans. Mais au verset 14, il est revêtu. Vous me suivez? C'est pas pareil. Ça veut dire, au verset 14, on est en train de dire que Jésus avait maintenant un manteau de puissance. Il était revêtu de la puissance. Et à partir de là, alors, à partir de là, Jésus a vécu les années suivantes avec toute cette puissance de Dieu qui est arrivée. Mais est-ce que Jésus a gardé son manteau avec lui quand il est monté au ciel? Non. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que si je m'en vais, alors je vais répandre sur vous le Saint-Esprit. Et quand Jésus est monté au ciel, alors le manteau de puissance est descendu sur l'Église. Et c'est pour ça que tout de suite après, vous avez Acte 2, où dans Acte 2, vous voyez que la puissance est descendue. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous avez même des gens comme l'apôtre Pierre, qui lui, personnellement, pas seulement l'Église, mais lui, dans sa personne même, était tellement revêtu de ce manteau de puissance que même quand il passait quelque part, si quelqu'un était près de lui, alors on appelle ça comme si quelqu'un passait à son ombre, mais c'est pas son ombre qui était devenu magique, c'est qu'il était revêtu de puissance. Pierre passait quelquefois et il passait juste à côté de quelqu'un et la personne était guérie parce qu'il était revêtu de puissance. Et c'est pour ça que cette histoire d'Élie nous est raconté dans la Bible pour nous parler de ce qui devait arriver avec Jésus. Cette histoire est une histoire prophétique. Elle ne parle pas que d'Élie. Bien sûr, c'est intéressant qu'Élie soit monté au ciel dans un char de feu tiré par des chevaux de feu. Mais ça ne nous parle pas réellement d'Élie. Ce que ça nous parle de Christ. Ça nous parle de Jésus-Christ qui est monté au ciel, qui est assis dans la gloire, qui s'est assis à la droite de la majesté divine et qui, de là, a laissé tomber son manteau sur l'Église. Alléluia! C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne regardons pas dans l'ancienne alliance avec envie pour dire oui, ces gens, ils avaient... Non, parce qu'en Christ, nous avons bien plus! Aujourd'hui, l'Église a reçu la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pas seulement le fils aîné, pas seulement Élisée qui ramasse le manteau, mais l'Église, nous tous ensemble. La puissance de Dieu est descendue sur nous, frères et sœurs. C'est pour ça que ces histoires nous sont racontées. L'histoire principale, l'important pour nous dans cette histoire aujourd'hui, c'est juste ça. C'est de voir que Élie laissa tomber son manteau. Parce que Christ l'a répandu sur nous. C'est tellement extraordinaire. Alors, quelle était la condition pour que Élisée le reçoive? La condition, Élie lui a dit, tu le recevras si tu me vois monter dans la gloire. Et c'est la même chose pour nous. La puissance, elle est sur l'Église dans la mesure où nous voyons Christ élevé dans la gloire. C'est pas la puissance qu'il faut rechercher pour elle-même. Ce que nous recherchons, c'est Christ élevé dans la gloire. C'est pour ça qu'au lieu de regarder les dons, il faut regarder le donateur. Au lieu de chercher la puissance, il faut chercher la présence. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour que nos regards soient fixés sur lui et que regardons à lui, alors lui puisse faire de nous ce qu'il veut et répandre sur nous sa puissance, son esprit et tous ses dons, que chacun, que ce soit sur l'un, sur l'autre, et que globalement, nous tous ensemble, puisque nous sommes un seul corps, une même famille, c'est pas nécessaire que chacun reçoive tous les dons. Mais ce qui est nécessaire, c'est que l'ensemble de notre corps, l'ensemble de la famille de Dieu, le vive exactement, pleinement, souverainement, totalement, tel que Dieu l'a promis pour nous tous. Acte 2 est arrivé. Acte 2 est réalisé. Acte 2, ce n'est pas une prophétie. Acte 2, c'est historique. Et nous sommes aujourd'hui dans l'Église que Dieu a équipée. Je termine en lisant juste Hébreux 12, 2, qui nous dit, qui souligne comme ça, qui souligne comme ça cette injonction à regarder à Jésus, ayant les regards sur Jésus. Voyez, comme Élisée qui regardait partir Élie dans le ciel, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la majesté, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis dans le ciel, à la droite du trône de Dieu. Voilà, ayant les regards sur celui qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, on va prier. Seigneur Dieu, Seigneur notre Dieu, après je demanderai à Sam dessus. Merci Seigneur de nous avoir donné en Jésus un tel sauveur, hein. Un tel sauveur qui est monté au ciel, qui a été élevé dans la gloire. Un sauveur qui nous a donné, qui a répandu sur nous, sur l'Église, qui a répandu la puissance. Aujourd'hui, nous voulons vivre dans cette puissance. Aujourd'hui, nous voulons vivre en ayant les regards sur toi, Seigneur Dieu. Les regards sur toi. Quelques instants. Ne bougeons plus. Ne nous laissons pas distraire. Regardez à Jésus. Le but n'est pas de se faire une image mentale, mais par la foi, regardez à Jésus. Contemplez celui qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Celui qui est monté au ciel et qui a laissé tomber son manteau de puissance. Dis-lui, Seigneur, je crois à cette histoire, je crois à l'histoire d'Élie telle qu'elle nous est racontée, et je crois à l'histoire de Christ telle qu'elle nous est parvenue. Je crois que Dieu veut m'utiliser, Seigneur Dieu, je veux chercher ta présence, et dans ta puissance, fais de moi ce que tu veux. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.